écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Et pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l'actualité qui a marqué cette année. Aujourd'hui, on parle crise énergétique. Comment en est-on arrivé là? Que font les gouvernements? Que fait l'Union européenne? Et pourquoi ne peut-on pas simplement décider de bloquer les prix? Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Quand les mesures sanitaires contre le Covid-19 prennent fin, petit à petit, à la fin de l'année dernière, l'économie reprend et cette reprise fait grimper les prix des matières premières et de l'énergie. Les prix s'envolent encore plus haut après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président russe Vladimir Poutine suspend les livraisons de gaz de la Russie à plusieurs pays de l'Union européenne, très dépendante du gaz russe. Cette crise, Le Soir vous en a parlé, voici les titres de l'année. 18 août, un nouveau record pour le prix du gaz. 19 octobre, crise énergétique, l'Union européenne cherche toujours comment faire baisser les prix. 17 novembre, la Commission propose enfin un plafonnement du prix du gaz. 1er décembre, l'inflation empêche la moitié des Belges d'épargner. 16 décembre, prime énergie TVA à 6% et sur profit, la Chambre adopte une série de mesures. Et pour en parler avec nous, Véronique Lamquin, qui couvre l'actualité européenne au Soir. Bonjour Véronique.
Bonjour Sandrine.
Xavier Kounas, vous êtes le chef du service enquête au Soir et vous avez longtemps couvert les dossiers liés à l'énergie. Bonjour Xavier.
Bonjour tout le monde.
Bernard de Monti, chef du service politique. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Bernard, l'État belge a sorti les gros moyens pour aider les citoyens avec toute une série de mesures. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça a coûté très cher à l'État. Est-ce qu'on peut rappeler les mesures?
Oui, l'opinion générale, c'est que l'État n'en fait pas assez. On le voit notamment dans nos derniers sondages. Et pourtant, quand on regarde de plus près, on constate quand même qu'il y a une série de mesures dont peut-être la plus perceptible pour les gens pour le moment, c'est cette fameuse prime de 196 euros de réduction de la facture pour les gens qui ont un contrat variable, 135 euros sur le gaz et 61 sur l'électricité. Donc pour le moment, ça se voit sur les factures d'acompte. Mais on peut rappeler aussi, par exemple, la fameuse baisse de la TVA sur l'électricité et le gaz, qui est passée de 21% quand même à 6%. On peut rappeler le tarif social pour les plus démunis, la prime chauffage de 100 euros net pour tout le monde, ça c'était déjà au mois de février dernier, le chèque mazout de 300 euros, les pelés qui ont un soutien de 250 euros, on peut aussi évoquer la baisse des accises sur l'essence et le diesel, et on peut aussi parler, si on le veut, du fameux droit passerelle pour les indépendants et du chômage pour les personnes dont l'entreprise est tenue d'interrompre ses activités parce que les prix sont trop élevés.
Xavier, vous avez essayé de savoir combien tout ça a coûté. Vous avez un chiffre?
Oui, alors pour être honnête, on n'y est pas tout à fait arrivé tout seul, hein, parce que c'est extrêmement compliqué. Une prime de 100 euros par ménage, on sait évaluer combien ça coûte. Quand il faut chiffrer comment une baisse de la TVA, où on imaginait des recettes de 21%, l'impact que ça va avoir quand elle sera à 6%, en sachant qu'il y a une variation de la consommation, je vous épargne les détails, mais il y a plein d'estimations qui sont très compliquées à faire. Donc, l'État belge les a faites, il les a transmises à la Cour des comptes et dans le tableau budgétaire le plus récent de la Cour des comptes, pour l'année actuelle, on chiffre l'ensemble du coût de toutes ces dépenses énergie à 5,5 milliards d'euros pour l'État, qui a donc en effet cassé une bonne partie de sa tirelire pour essayer de soulager en partie les ménages, enfin tous les consommateurs touchés par cette crise.
Bernard, contrairement à ce qu'on croit, on a dépensé beaucoup en fait pour aider les consommateurs en Belgique.
Oui, c'est quand même des sommes très élevées. Alors c'est vrai que pour beaucoup de consommateurs, ça reste peut-être encore trop peu ou peu perceptible. Ils continuent à avoir des difficultés, notamment parce que les prix dans les supermarchés continuent à augmenter fortement. Donc ça peut paraître symbolique, mais c'est vrai que quand on regarde la globalité des chiffres, on ne peut pas dire que l'État belge n'a rien fait ou qu'il n'a rien dépensé. Au contraire, c'est même un des facteurs qui plombe actuellement le budget fédéral.
Le reproche qui est parfois fait à l'État belge, c'est d'avoir un peu distribué, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir ciblé certaines aides, même si je pense qu'il y a quand même quelques mesures précises pour les plus démunis. Mais dans les reproches faits par des instances officielles, c'était de dire notamment que ça aurait peut-être été plus efficace parfois de ne pas donner un chèque général à tout le monde, de peut-être aussi penser que des gens qui ont des panneaux solaires sur leur toit sont moins touchés par la crise, je dis, prends un exemple au hasard, hein, que des gens qui n'en ont pas ou qui ont une habitation mal isolée. Tout ça, évidemment, ce calibrage des mesures, on n'est pas capable de le faire. Je pense aussi parce qu'on n'a pas les outils statistiques, les données qui permettent d'aller cibler toutes ces aides.
Ça, c'est un reproche un peu général au niveau européen.
La Belgique n'est pas le seul pays qui reçoit ce commentaire.
Absolument pas. Début novembre, la Commission européenne a rendu son évaluation des budgets des différents États et a mis un accent particulier sur la réponse qui avait été fournie à la crise énergétique. Et en fait, dans l'ensemble des États membres, il y a 70% des aides qui sont jugées non ciblées. Il y a un message au niveau européen de dire que c'est pas soutenable, on peut pas continuer comme ça, il faut davantage cibler les aides. Et alors au niveau européen, on a essayé de calculer combien au total on a déjà dépensé. Alors selon les estimations basses, on est à 200 milliards. Selon les estimations hautes effectuées par des think tanks, on est à 700 milliards. Ce sont des sommes énormes. Il y a un appel très pressant à davantage cibler en 2023, sous peine de plomber encore davantage les finances publiques.
Bernard, comment est-ce qu'on est arrivé chez nous en Belgique à la décision politique de distribuer des aides à tout le monde?
C'est une question centrale. On a un peu, les pompiers sont arrivés, il y avait le feu, ils ont été à la maison, mais ils ont arrosé le jardin aussi, en fait. Donc c'est vraiment clairement le reproche qui n'est pas fait seulement par les instances européennes, mais aussi en Belgique. On a notamment, nous, un baromètre du pouvoir d'achat qui démontre très clairement qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu des aides et qui, en soi, n'en avaient pas besoin. Et la Banque nationale a même constaté qu'une partie des fonds était mise sur les comptes d'épargne. Il y a clairement un problème de ciblage, il ressort un peu de partout. Alors pourquoi? Très bonne question, en effet. En fait, on en revient toujours à la difficulté du gouvernement fédéral, qui est le principal donateur, j'allais dire, la principale source d'aide aux particuliers. En fait, il y a cette partie qui n'ont pas la même notion de classe moyenne entre les socialistes qui veulent la resserrer au maximum sur les plus pauvres et les partis plus de droite qui considèrent que la classe moyenne, c'est aussi les gens qui travaillent. Et donc, à force de compromis, on est arrivé à une définition extrêmement large de la classe moyenne. Par exemple, la fameuse prime dont je parlais, forfait de consommation minimum de gaz et d'électricité, peut aller jusqu'à des personnes qui gagnent 4000 euros net, 4500 euros net, ce qui est quand même, on ne peut pas vraiment parler de personnes en difficulté ou de classe sociale précarisée. Pour répondre clairement à votre question, c'est clairement un compromis politique qui a provoqué en Belgique un ciblage trop large qui nous est reproché un peu partout.
Les Pays-Bas, la France, l'Espagne ont décidé de bloquer les prix de l'énergie. Pourquoi on ne fait pas la même chose chez nous?
Je pense qu'il y a un peu un flou sur la notion de blocage des prix. C'est pas tout à fait juste de dire, comme certains hommes et femmes politiques le disent en Belgique, partout ailleurs on a bloqué les prix. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est notamment dû aussi à la situation énergétique extrêmement différente de chaque État, au poids ou à la nature de la structure des compagnies énergétiques, à la dépendance par rapport à d'autres, au mix énergétique. Donc il n'y a pas une solution simple qu'un État européen aurait mis en œuvre et que la Belgique n'aurait pas décidé de faire. C'est extrêmement complexe.
Xavier, tous les pays n'ont pas les mêmes cartes en main en fait sur le marché de l'énergie.
Clairement, et pour moi, les deux seuls pays qui sont intervenus directement sur les prix du marché, en l'occurrence des marchés d'électricité, c'est l'Espagne et le Portugal. L'Espagne et le Portugal ont vraiment réussi à plafonner le coût maximal de l'électricité. Je vous passe les détails, mais via une intervention sur la fixation des prix de marché, assez astucieuse. Mais le problème, c'est que ça ne peut marcher que chez eux parce qu'ils sont très faiblement interconnectés avec le reste de l'Europe. Et bon, les interconnexions, ça a évidemment du bon, ça nous permet de partager notre électricité. Mais en l'occurrence, là, quand quelqu'un baisse ses prix et que les autres pays ne le font pas, et bien tout le monde aurait envie d'aller tirer chez son voisin pour aller prendre de l'électricité pas chère. Or, comme France, par exemple, et l'Espagne sont faiblement interconnectés, et bien ça limite la capacité de la France de pouvoir aller profiter du prix de son voisin. Il y a une petite bulle, en fait, sur le réseau, pour le dire assez simplement, espagnol et portugais, qui leur permet d'agir localement parce qu'ils sont un peu isolés du reste du réseau. Or, la Belgique, c'est pas du tout le cas. Nous, on est une plaque tournante, on est connecté à tout le monde, on a poussé à fond pour ces interconnexions. Et donc, si nous, on venait à intervenir sur notre prix de marché, eh bien les autres pays viendraient se servir chez nous. Et donc il faut absolument avoir, Véronique en parlerait mieux que moi, mais une logique européenne pour intervenir sur ce prix-là. Par contre, d'autres pays, c'est vrai, sont intervenus sur les prix, pas sur les prix de marché, parenthèse, la Belgique aussi, toutes les primes dont Bernard vient de vous parler, c'est une intervention sur la facture. C'est juste que votre prix, en fait, de la facture ne change pas, mais on vient vous donner des aides derrière pour vous soulager. Mais c'est clairement une intervention pour faire baisser le coût global de l'électricité, prix de marché moins prime. Les Pays-Bas, c'est à peu près la même chose. Le mécanisme n'est pas le même, mais ils donnent un forfait de base pour dire, voilà, à minima, ce dont vous avez besoin en gaz et en électricité, on vous le paye à un certain prix. Mais c'est aussi une intervention a posteriori. Et encore un dernier exemple, celui de la France, qu'on cite souvent, c'est un pays qui a interprété un peu différemment la libéralisation du marché de l'énergie, parce qu'ils ont toujours des gros monopoles d'État qui détiennent le pouvoir, et donc la France a imposé à ces monopoles de vendre l'électricité à un prix très bas. Mais c'est EDF qui fait des pertes colossales, et la France va devoir compenser ces pertes, hein, donc ça a un coût énorme. Voilà, la Belgique n'est pas actionnaire de ces géants de l'énergie, et ne peut pas décider, vous allez vous mettre dans le rouge parce qu'on l'a décidé. C'est vraiment difficile à appliquer chez nous.
Pour les Pays-Bas, pour la France, c'est plus une question de communication, de comment on présente la mesure énergie. C'est une prime, ce n'est pas un blocage des prix.
Il y a toujours de la comment on peut. Ça fait bien aujourd'hui de dire on a plafonné le coût du gaz, de l'électricité. C'est un mot qui revient souvent. Je ne pense pas factuellement que les Pays-Bas l'aient plafonné. Et si on regarde la mesure, je trouve qu'il y a plus de points communs avec la version belge qu'avec la version espagnole. Donc c'est clair qu'il y a un peu une guerre de la com sur annoncer ces mesures, montrer qu'elles font du bien. Et je trouve peut-être que la Belgique parfois ne le dit pas assez. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des aides pour faire en sorte que cette hausse fracassante soit un peu moins dure. Elle est toujours dure à supporter, mais elle est un peu moins.
Juste sur la France, je pense que c'est vraiment un cas à part et que se comparer à la France, ça n'a pas beaucoup de sens. Et sur le fameux modèle espagnol et portugais que Xavier évoquait, à un moment, à la table européenne, on a demandé à la Commission européenne d'explorer ce modèle pour voir s'il pouvait bénéficier à tous les pays. Et la conclusion a été que c'était absolument pas une bonne idée. Et notamment les Belges, comme Xavier l'a évoqué, sont radicalement contre cette option. Parce que pour faire simple, parmi les effets pervers que ça pourrait avoir, ce serait qu'on subsidierait de l'énergie pour le Royaume-Uni, parce que on a extrêmement beaucoup de connexions avec eux. Donc cette formule-là n'est pas applicable à la Belgique et à bon nombre de pays européens non plus.
Et pour revenir juste sur le cas belge, parce qu'il y a encore une mesure, je pense qu'il faut quand même insister auprès des gens, ce fameux tarif social dont on parle et qui a l'air de rien, c'est pour 20% des ménages du pays, un prix fixe de l'énergie, mais bas, nettement plus bas que les prix de marché. Donc il existe en Belgique une mesure de protection. Alors évidemment, certains jugent que la classe qui en bénéficie, le groupe de personnes est insuffisant, mais c'est typiquement déjà un prix régulé où c'est l'État qui compense la différence entre le prix vendu par les fournisseurs et le prix qui est affiché pour ce tarif social. Donc c'est une mesure qui permet de fixer le prix. On pourrait théoriquement se dire qu'on l'applique à toute la population. C'est juste, financièrement parlant, impayable. Hein.
Ça concerne, pour préciser, 1 million de personnes en Belgique, ce qui est déjà énorme, et elles payent un tiers du prix moyen que paye le consommateur qui n'a pas cette aide.
L'argent que les consommateurs payent pour leur facture d'énergie, il atterrit dans les poches des producteurs de gaz, aussi des producteurs d'énergie nucléaire en Belgique par exemple. Pour eux, les coûts de production n'ont pas augmenté, mais les prix auxquels ils vendent leur énergie se sont envolés. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller récupérer cet argent pour le redistribuer aux consommateurs ?
Donc ça, c'est quelque chose qui a commencé au niveau européen, où effectivement l'Europe a donné un cadre pour permettre aux États d'aller récupérer les bénéfices excessifs. Ce cadre, il a été au bout de longues semaines de tractations acté, et ensuite chaque pays agit dans ce cadre, avec la Belgique qui a été un petit peu plus ambitieuse que ce que l'Europe ne permettait.
Non, donc c'est vrai, la Belgique a attendu longtemps cette mesure européenne pour pouvoir dégainer ses propres mesures de taxation des surprofits, hein, c'est comme ça qu'on les a appelés. Parce qu'il est évident qu'il y a pas mal de producteurs d'énergie, surtout en Belgique, d'énergie nucléaire, qui gagnent pas mal d'argent, quelques acteurs du secteur pétrolier aussi. Et donc, on a fait un catalogue de quelques mesures qui visent le secteur pétrolier, qui visent également Fluxys, le gestionnaire de réseau de transport de gaz qui a gagné pas mal d'argent. Et puis, il y a cette taxe sur les... Dès qu'on vend son électricité plus cher qu'un certain plafond, eh bien, l'État ira ponctionner l'excès pour le mettre dans sa poche. Si vous cumulez tout ça, plus une taxe sur la rente nucléaire qui existe déjà en Belgique, et c'était un peu déjà l'idée d'une taxe sur les surprofits, mais qui existait bien avant la crise, sur les surprofits du secteur nucléaire, vous ajoutez tout ça, 1 milliard d'un côté, 800 millions de l'autre, enfin au total, on arrive à, pour l'année prochaine, à plus de 2 milliards de recettes escomptées grâce à cette taxation globale des surprofits. La seule chose, c'est que, je devance peut-être votre question, mais la seule chose, c'est que ça ne permettra pas toujours de compenser
les 5 milliards et demi dépensés par l'État belge cette année, en 2022.
Oui, les 5 milliards et demi cette année, c'est pas encore très clair, hein, quelles seront les mesures qui seront l'année prochaine maintenues, à quel terme elles seront maintenues, mais dans les premières estimations qu'on a de la Cour des comptes, toujours pour le budget 2023, on voit que malgré ces recettes énormes, ces nouvelles recettes, les mesures dont parlait Bernard, le forfait de base, etc., on serait pour l'instant en déficit d'autour d'1,5 milliard pour l'année 2023, mais l'année 2023 n'est pas encore là, est encore jeune, il peut se passer beaucoup de choses.
Ça nous amène à un déficit budgétaire de 33 milliards et demi pour la Belgique, dans le meilleur des cas, parce que le chiffre est contesté. Et il faut savoir aussi qu'on va peut-être pas s'arrêter en mars. Ça va être difficile de dire aux gens, vous savez, maintenant on est en avril, votre TVA elle va repasser à 21%, donc on peut quand même escompter des coûts importants pour l'année prochaine.
Xavier, les ménages sont les grands perdants de cette crise. Leur portefeuille se vide plus vite que les factures qui gonflent aujourd'hui.
On a essayé de faire un petit calcul. Alors le problème, c'est que c'est particulièrement compliqué dans le sens où chacun a un contrat tarifaire différent. Il n'y a pas de prix unique de l'énergie, de l'électricité ou du gaz en Belgique. Donc un ménage n'est pas l'autre, une consommation n'est pas l'autre. Certains sont mieux isolés, ont des panneaux solaires. Enfin, certains sont toujours protégés par un contrat fixe très avantageux. Donc c'est clair que c'est impossible. Mais bon, si on se base sur les prix moyens, l'augmentation moyenne d'une facture, malheureusement, les primes ne suffisent pas. Donc c'est un effort réel. Ça permet quand même de faire un peu moins mal. Mais on peut tourner le calcul dans tous les sens. La hausse est tellement vive qu'on n'y arrive pas. Pour se consoler un peu, quand on regarde la Belgique par rapport aux augmentations de prix chez certains de nos voisins, hors France où les prix ont vraiment très peu bougé, c'est encore pire en fait, les hausses des prix aux Pays-Bas, en Allemagne, où la situation notamment en gaz était plus tendue que chez nous.
C'est
la Belgique s'en sort pas plus mal. Hein. Je pourrais vous donner des chiffres, c'est pas que je veux pas le faire, c'est qu'en réalité... Je pense qu'une comparaison totalement saine serait de dire on voit de combien augmente la facture dans chaque pays et on retire les primes et les mécanismes que chaque pays a mis en place. Malheureusement, ce calcul-là, à grande échelle, je ne l'ai pas. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, hein, juste sur l'électricité, par exemple, aux Pays-Bas, je vois en un an, ça a augmenté de plus de 128%. C'était en tout cas le chiffre de novembre, alors qu'en Belgique, on était à plus de 50-60%. Donc il y a des effets assez impressionnants dans certains autres pays. L'image globale, elle est difficile à voir. Je pense juste que c'est trop facile de dire que la Belgique est à nouveau le pire élève de la classe, ne s'en sort pas, qu'il se passe rien. La situation a l'air tout aussi inquiétante et compliquée chez certains de nos voisins.
Par contre, on a une vision un peu plus précise quand on parle du pouvoir d'achat de manière générale. Hein, donc si on prend les aides et qu'on compare avec la hausse du coût de la vie, on constate quand même qu'il y a une grosse baisse de pouvoir d'achat chez tous les Belges, mais qu'elle n'est pas égale selon les profils. On parlait tout à l'heure du tarif social. Les personnes qui touchent le tarif social sont parmi les mieux protégées. Après, évidemment qu'il faut les protéger d'abord et avant tout le monde. Mais pour celles-là, c'est plutôt une situation qui est compensée. Pour les personnes qui ont les plus hauts revenus, évidemment, ils sont moins compensés, mais les baisses de pouvoir d'achat ne sont pas perceptibles pour eux parce qu'ils ont une capacité d'épargne. La catégorie de population qui est la plus fragilisée pour l'instant, et ça n'est toujours pas réglé, c'est ce qu'on appelle la petite classe moyenne qui n'a pas le tarif social et qui n'a pas de capacité d'épargne. Pour ces personnes-là qui gagnent autour des 2000, parfois 2003, 2000, même jusqu'à 2005, il y a quand même une baisse de pouvoir d'achat qui n'est pas compensée par les aides diverses qu'ils peuvent recevoir.
Véronique, les ministres européens de l'énergie se sont finalement, fin décembre, mis d'accord sur un mécanisme de correction du marché pour plafonner le prix du gaz. Quand ce prix atteint 180 euros du mégawatt-heure pendant au moins 3 jours, pourquoi ça a été si difficile ?
Il faut savoir que la Commission européenne, qui a la force de proposition au niveau européen, dans un premier temps, s'est d'abord concentrée sur la sécurité d'approvisionnement. C'est quelque chose qui a été moins en débat chez nous, mais qui a été une question extrêmement présente dans certains pays, singulièrement l'Allemagne. Donc l'Allemagne était extrêmement dépendante du gaz russe, et donc il y avait vraiment une réaction presque de panique au niveau allemand, qui s'est étendue au niveau européen, d'assurer notre approvisionnement en gaz. C'est-à-dire essentiellement d'aller chercher d'autres fournisseurs que la Russie, d'aller acheter du gaz à la fois à la Norvège ou de négocier des contrats avec différents pays. Ça a été la priorité absolue avant même de gérer les prix. Et puis, depuis cet été, de plus en plus de pays réclament des solutions au niveau des prix, une solution au niveau européen. Parce que d'une part, comme l'a évoqué Xavier, la solution, elle doit être européenne. Les États n'ont pas les leviers pour ça. Et puis aussi et surtout parce qu'il y a une énorme inégalité entre les États membres dans leur capacité à aider leurs citoyens et leurs entreprises. On se souvient de la polémique avec l'Allemagne qui a annoncé du jour au lendemain à mettre 200 milliards sur la table pour venir en aide au niveau énergétique à sa population. Une série d'États dont la Belgique ne peuvent évidemment pas suivre. Et c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, le déficit qu'évoquait Bernard de plus de 30 milliards. Ça n'est pas tenable à long terme. Or, on ne sait pas combien de temps la guerre va continuer. Et surtout, on sait que les prix de l'énergie, ils vont rester élevés. Le risque pour l'approvisionnement, il est toujours là. Donc, il y a quelque chose d'impérieux pour un nombre important de pays au niveau européen d'avoir une réponse commune. Et cette réponse commune, elle tarde à se mettre en place parce qu'il y a, comme Xavier l'a expliqué tout à l'heure, les marchés ils ont été libéralisés et donc intervenir sur les marchés est quelque chose, alors pour certains États, par exemple les Pays-Bas, de tabou, mais pour la Commission européenne et pour d'autres, d'extrêmement périlleux. Ça, tous les États, même la Belgique, le disent. On ne sait pas comment on va perturber le fonctionnement du marché qui, jusqu'avant l'été 2021, fonctionnait plus ou moins normalement. allemand. Il y a beaucoup de frilosité par rapport à ça. Et donc, ce qui prévaut pour l'instant au niveau européen, c'est un relatif consensus sur l'idée d'au moins avoir un mécanisme qui permet d'intervenir quand il y a des pics excessifs sur les marchés. Au moins ça. Pas nécessairement réguler le marché de façon structurelle, mais juste avoir un mécanisme de soupape pour pouvoir gérer ça. La crainte principale, elle est très simple, c'est de dire que si au niveau européen, quelque part, on impose un prix maximal, c'est très facile quand on est un méthanier, plutôt que d'aller décharger à Zeebrugge, d'aller vendre à plus de francs en Asie ou ailleurs. Il y a pour l'instant une pénurie mondiale de gaz et la crainte est que si l'Europe met des restrictions au prix qu'elle veut bien payer, ben ce ne sera plus elle qui aura le gaz. Or, c'est une préoccupation, j'ai beaucoup parlé de l'Allemagne, mais si à un moment l'industrie allemande est en situation de pénurie de gaz, c'est toute l'économie européenne qui va en pâtir. Forcément, tout le monde veut éviter. Ça ne justifie pas toutes les lenteurs qui ne sont pas dues qu'à ça, mais ça peut expliquer en partie pourquoi il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour dire on plafonne de manière globale le prix au niveau européen.
L'Europe a beaucoup rêvé que libéraliser le marché de l'énergie allait permettre de garder des prix bas. Aujourd'hui, l'Union européenne se retrouve obligée de réguler, ne fût-ce qu'à minima. Est-ce que c'est un véritable changement de philosophie ?
Je pense que le vrai changement de paradigme, il est dans la prise de conscience qu'on était extrêmement dépendant de la Russie et qu'il faut à tout prix éviter de multiplier les dépendances, quelles qu'elles soient, à l'égard de quelque partenaire commercial que ce soit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend dans tous les domaines, puisque au niveau énergétique, on est évidemment très dépendant de la Russie, mais le but n'est, par exemple, pour donner un autre secteur, pas de se rendre dépendant de tous les matériaux dont on a besoin pour l'instant pour la transition verte de la Chine, etc. etc. Donc, il y a vraiment au niveau européen une prise de conscience de plus jamais ça. Alors je ne dis pas que ça va fonctionner, mais ça infuse dans tous les secteurs et par ailleurs on doit accélérer la transition vers le renouvelable et ne plus simplement être dépendant de sources qu'on ne maîtrise pas. Le vent ou le soleil, on peut le gérer sur son territoire. Devoir acheter du gaz, c'est quelque chose de tout à fait différent. Donc il y a ces prises de conscience là, une accélération très forte de la nécessité de passer au renouvelable et d'y mettre les moyens et une réflexion profonde de l'Europe ne peut plus se mettre pieds et poings liés envers des partenaires qui un jour sont sympathiques et qui le lendemain peuvent nous faire la guerre.
Xavier, la stratégie européenne de libéralisation du marché de l'énergie a échoué.
Cette crise a aussi permis de se rendre compte que le marché qu'on idéalisait parfois au niveau européen pouvait aussi dysfonctionner. En fait, je crois qu'il dysfonctionne depuis un moment, c'est juste qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire que comme les prix étaient bas, tout le monde était content et on se disait que ça allait bien, mais ce marché ne fonctionnait déjà pas dans le sens où quand on a voulu développer le renouvelable, il a fallu intervenir sur le marché pour donner des primes parce que personne n'aurait créé une éolienne, un grand champ photovoltaïque sans soutien. Le prix de marché ne suffisait pas. Aujourd'hui, on a besoin de la flexibilité pour équilibrer le renouvelable, pour aider à couvrir la consommation en cas de pic de centrales au gaz. Il n'y a pas que la Belgique, hein, y a d'autres pays qui ont besoin de ces nouvelles centrales au gaz, même si on connaît tous les problèmes qui se posent derrière l'approvisionnement en gaz. Mais ces centrales, personne n'était prêt à les construire, à les investir sans un incitant. On a fait un mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, mais il fallait aussi donner une prime subsidiée pour que ces centrales arrivent. Or, je pense qu'à un moment, l'Europe croyait que le marché à lui seul allait permettre de faire essaimer comme des champignons des nouvelles unités, que ça allait en fait non pas simplement aider à fixer les prix au quotidien mais également permettre d'assurer la sécurité d'approvisionnement à moyen et long terme de tous les États européens. Ça, on le sait, je pense, depuis un moment, on le voit clairement aujourd'hui, le marché ne permet pas ça. Et c'est en fait à nouveau un peu une incohérence dans les capacités entre l'Europe et les États membres, c'est-à-dire que l'Europe organise son marché et les échanges d'électricité à la taille européenne, mais que c'est en fait chacun des pays qui est responsable de sa propre sécurité d'approvisionnement. Or, si on veut que ça marche, il faut être certain que chaque pays ne compte pas sur son voisin pour se dire, comme je m'interconnecte, moi, en cas d'hiver difficile, je compte sur mon voisin pour me fournir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on est en train de le vivre, et on va, à mon avis, le vivre encore quelques années. Chaque pays a sous-investi en se disant « mais grâce à mes interconnexions, et je vais pouvoir profiter de l'énergie du voisin, de ces échanges, et ça va passer ». Bien non, je pense qu'il y a besoin d'une planification stratégique, d'avoir un plan d'investissement à long terme sur les moyens de production, et d'en dépendre le moins possible de l'étranger. Or, depuis qu'on a libéralisé, notre dépendance énergétique à des pays hors Europe n'a fait qu'augmenter. C'est quand même, à mon avis, le plus gros échec de cette stratégie. Et donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, arriver à prendre le contrôle, arriver à planifier, et ça je pense que ça doit se faire autrement que par le marché, juste avec des gouvernements et des États qui imaginent des plans à moyen et à long terme, ce dont on a un peu manqué ces dernières années, pour le dire poliment.
Sur la stratégie d'investissement, l'Europe a sorti en mai son plan qu'on appelle RePowerEU, qui en fait est un grand plan stratégique d'investissement singulièrement dans le renouvelable. Sur la solidarité et la croyance qu'il suffisait d'être interconnecté, aujourd'hui on en est au niveau européen à définir des règles de solidarité en cas de pénurie, parce effectivement, on se rend compte que la croyance que tout allait aller tout seul ne fonctionne pas. Et donc, il y a pour l'instant toute une série de textes qui sont prévus pour justement organiser la solidarité, organiser aussi des achats communs pour essayer de remplir les stocks. Donc, il y a aussi une prise de conscience à cet égard-là qu'il faut agir ensemble.
Pour revenir au niveau belge, une stratégie à long terme, ça ne veut pas juste dire se poser la question tous les 6 mois de prolonger ou pas les réacteurs nucléaires. On voit par exemple en France, c'est toujours la question des œufs dans le même panier, hein, mais la France est extrêmement dépendante de son parc nucléaire qui a été construit à peu près à la même époque, qui est aujourd'hui à l'arrêt, en tout cas en bonne partie. Ça ne sent pas forcément sain d'avoir misé sur des centrales toutes de la même génération. Je pense qu'en Belgique...
Et toutes dans le même pays.
Voilà. À un moment, il faut répartir les investissements décennie par décennie, faire un roulement, varier dans les technologies. Donc évidemment, je pense qu'à court terme, se pose quand même la question de savoir, pour que la Belgique puisse assurer sa propre sécurité d'approvisionnement, évidemment que la question de la prolongation de certains réacteurs nucléaires se pose. Parce qu'on est short, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'espère qu'on pourra un jour parler aussi, même, ça peut même être du nucléaire neuf, hein, enfin, il n'y a pas de tabou, et c'est pas à la presse de décider ce dans quoi on va investir, mais il ne faut pas croire qu'en tout cas, il suffira de prolonger indéfiniment des réacteurs nucléaires qui ont été construits dans les années 70 et 80 pour faire une stratégie à long terme d'investissement et d'indépendance énergétique belge ou européenne. Je pense que là-dessus, il y a quand même parfois un débat à mener qui malheureusement tourne un peu en rond dans notre pays.
Cette crise se résume à ça, un manque de planification stratégique pour l'énergie.
Ça ne se résume pas qu'à ça, mais s'il y a une conclusion à retenir, celle-là ne me dérange pas.
Je pense qu'il y a un manque de vision. Par ailleurs, au niveau européen, il faut quand même rappeler que l'énergie, c'est une compétence nationale et que chaque pays a ses réalités, son mix énergétique. Donc c'est effectivement logique d'agir au niveau européen, d'avoir une coordination stratégique européenne, mais ça ne va pas de soi. C'est un petit peu comme avec le Covid, où tout d'un coup, on a décrété qu'il fallait que l'Europe coordonne les efforts en matière de santé, alors qu'elle n'a pas de compétences a priori en matière de santé.
Merci Véronique, merci Xavier. Et merci Bernard.
Merci à vous.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.